Christian Darnia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'EFAMA, c'est l'association européenne des sociétés de gestion d'actifs, donc l'asset management au niveau européen. Justement, de ce point de vue-là, comment se porte la gestion d'actifs en 2015? On a eu effectivement un certain nombre de crises, des reconfigurations, on pourrait dire, et d'adaptations. On en est où aujourd'hui?
Écoutez, l'asset management en Europe va bien. On est même revenu à des niveaux qui étaient peu ou prou les niveaux d'avant-crise ou au moment du déclenchement de la crise de 2007-2008, si on regarde différents critères. Alors l'asset management va bien en termes d'encours, les encours se développent, en termes d'attraction par rapport à la clientèle. Et en fait, on peut dire que probablement ce métier de gestion d'actifs va bien aujourd'hui et est appelé à un très bel avenir. Alors, il est appelé à un bel avenir parce qu'il y a de la croissance dans le monde. Et comme vous le savez, quand il y a de la croissance, il y a davantage de gens qui sont en capacité d'épargner et de nous confier cette épargne. Elle va bien également, donc ça c'est pour de bonnes raisons, pour de moins bonnes raisons, puisque vous le savez, les finances publiques aujourd'hui, d'un peu partout dans le monde occidental, ont des difficultés. Et donc on va être amené dans les années à venir à devoir davantage se préoccuper de la préparation de nos régimes de retraite par nous-mêmes plutôt que de reposer sur des systèmes à 100% de répartition. Et ça, toute chose égale par ailleurs, ça va entraîner des flux financiers supplémentaires en faveur de l'asset management. Donc notre métier, c'est de récolter de l'épargne et puis de la placer à travers les marchés financiers de la manière la plus efficace, la plus efficiente, au service des entreprises en matière de financement et puis au service surtout donc de nos concitoyens qui nous confient leur épargne. Voilà, donc effectivement c'est une activité qui se développe et qui est appelée à de beaux développements dans les années à venir.
Vous parliez de la retraite, est-ce qu'on a avancé sur un produit de retraite européen? Là, il y avait un vrai projet là-dessus?
Tout à fait, alors ça c'est vraiment ça a été le cheval de bataille permanent de l'EFAMA avant ma présidence et probablement encore après ma présidence. Nous sommes convaincus que par rapport à ce défi générationnel, ce défi de financement des retraites pour les années à venir, il sera indispensable de créer un fonds de pension, pour employer des mots anglo-saxons, un fonds de pension pan-européen, c'est-à-dire de donner la possibilité à chaque citoyen de pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour préparer ses vieux jours, et pour ce faire, quel que soit le pays où il réside. Donc aujourd'hui, je travaille en France, demain en Italie, hier en Allemagne. Eh bien, il faudrait que je puisse avoir un régime de préparation à ma retraite qui accompagne mes droits à la retraite accumulés, quel que soit le pays. Alors aujourd'hui, l'EFAMA a mis en place, a fait des propositions aux régulateurs. On voit ceux-ci, et notamment celui européen, très intéressé par cette proposition. Là où le bât blesse, c'est par rapport aux aspects fiscaux, puisque vous le savez, il n'y a pas un régime fiscal pan-européen, il y a différents régimes, il y a une fragmentation des pays européens en matière de fiscalité. C'est vraiment aujourd'hui encore le seul obstacle, l'obstacle majeur, qui empêche la création de ces fonds de pension ou de ce régime de retraite pan-européen, mais il verra le jour. Donc c'est pour ça que nous sommes assez confiants sur ce régime européen personnel.
Oui, on voit ce manque d'harmonie de la fiscalité, d'harmonisation de la fiscalité, qui pèse d'ailleurs sur d'autres sujets que cela. On parle aussi beaucoup de l'union de marché des capitaux, alors avec des discussions sur l'évolution, sur ce que ça pourrait donner. Certains disent que c'est le pendant de l'union bancaire qui a été mise en place. Et puis on voit qu'il y a des réglementations, qu'il y a des sujets sur des réglementations, qu'il y a des taxes qui peuvent être effectivement créées. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce qu'il y a des points un peu de friction?
Alors déjà, l'initiative de la Commission européenne et du commissaire Jonathan Hill de promouvoir l'union des marchés de capitaux est une bonne initiative. Alors pourquoi? Parce que c'est une initiative qui est destinée à promouvoir un meilleur financement de la croissance. Or, vous le savez, quel que soit le pays, quel que soit le bord politique, tout le monde est à la recherche de croissance. Pour avoir de la croissance, il faut investir. Et pour investir, il faut avoir du financement, du capital, du financement. Et le capital est fait de l'épargne que nous collectons. Donc, nous ne pouvons qu'applaudir cette initiative. Cette initiative consiste à diversifier les sources de financement. Vous pouvez trouver une source de financement auprès de votre banque. Vous pouvez également la trouver à travers les marchés financiers. Donc ça va dans le bon sens. Bien évidemment, cette initiative ne va pas se concrétiser dès demain matin. Il faudra du temps. Alors pourquoi il faudra du temps? Parce qu'aujourd'hui, plus des trois quarts du financement européen se fait à travers les systèmes bancaires, ce qu'on appelle le financement intermédiaire. On va donner probablement dans les années à venir un peu plus de place au financement des intermédiaires, à l'instar de ce qui existe par exemple outre-Atlantique. Cependant, Pour avoir mis en place cet écosystème outre-Atlantique aux États-Unis, il a fallu plusieurs décennies. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette initiative est au tout début de sa mise en place, de sa réflexion tout d'abord, puis de sa mise en place, et que cela prendra probablement plusieurs années, au-delà d'ailleurs de la mandature de la Commission actuelle. La fiscalité est un des paramètres à prendre en considération, mais globalement, ce qui est vraiment nécessaire, c'est de créer une standardisation, une transparence au sein de l'ensemble de l'Europe pour que, effectivement, lorsqu'on émettra demain un outil, une obligation, un loan, une créance aux Pays-Bas, eh bien, cette créance pourra être achetée, on pourra investir son argent quand bien même on réside en France ou en Allemagne ou en Italie, et réciproquement, bien évidemment. Donc ça participe effectivement d'une union, comme son nom l'indique, de marché des capitaux qui est favorable pour le financement de l'économie européenne.
Il y avait des divergences, notamment sur le financement des PME ou des ETI, il y avait des vrais sujets là, de friction là-dessus.
Il y a des sujets de friction, ou plutôt de mauvaise compréhension, parce que, bien évidemment, un des points essentiels, par exemple, ça paraît basique, mais c'est très compliqué, c'est d'avoir une base de données sur les ETI, homogène et transversale, quels que soient les pays. La Banque de France a des données sur les entreprises françaises. La Bundesbank a la même chose en Allemagne. Simplement, il faut que ça soit partagé au niveau de toute l'Europe, pour qu'encore une fois, l'épargne, qui aujourd'hui est essentiellement concentrée dans certains pays, puisse se déverser dans le financement de projets, s'ils sont intéressants, dans d'autres pays. Car n'oublions pas, l'Europe reste le continent où nous avons le plus de capacité d'épargne. Donc nous sommes une zone économique, commerciale, très riche. Simplement, on a quelques difficultés à fluidifier ces transferts d'épargne d'un pays à l'autre.
On a eu aussi une spécificité française, on a vu des boutiques devenir de grandes sociétés de gestion d'actifs. Et puis aussi, malgré tout, avec la réglementation, on sent bien que c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui de recréer ces boutiques françaises. On en a qui aujourd'hui ont fait des beaux parcours. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué ou il peut y avoir encore de nouveaux acteurs qui viennent sur ce secteur ?
Non, je crois non seulement il peut y avoir de nouveaux acteurs, mais vous le constatez chaque année. C'est vrai que l'industrie française, nous sommes à Paris aujourd'hui, est une industrie extrêmement dynamique en gestion d'actifs. Chaque année, plusieurs dizaines de nouvelles sociétés se créent. Certaines meurent, mais beaucoup plus se créent. Avec, vous l'avez rappelé, quand même des champions nationaux qui aujourd'hui, on peut quand même se flatter aujourd'hui, d'avoir 4 sociétés de gestion d'actifs d'origine française qui sont dans le top 25 au niveau mondial. Il y a peu d'industries en France qui peuvent souffrir une telle comparaison. Alors, globalement, la tendance de ces dernières années a été d'essayer d'harmoniser les règles européennes pour que ça soit plus facile pour une société créée à Paris de pouvoir exporter ses produits en dehors de l'Hexagone. Ce que l'on constate, c'est que cette harmonisation, néanmoins, s'est accompagnée d'une recrudescence des demandes, des requêtes, enfin des conditions demandées par les régulateurs. Et il est vrai, mais ça, ce n'est pas lié à l'harmonisation européenne, mais c'est bien davantage lié aux conséquences de la crise financière déclenchée en 2007-2008, eh bien, il y a une demande beaucoup plus forte de la part des régulateurs, où qu'ils soient, pour mettre en place de nouveaux critères, pour mettre en place des suivis plus pointus, plus forts, qui, de fait, entraînent un renchérissement des coûts et qui souvent sont dommageables pour les petites structures qui n'ont pas le moyen d'embaucher des compliance officers, qui n'ont pas forcément toutes les ressources nécessaires pour répondre aux attentes des régulateurs.
Le mot de la fin rapidement, je parlais du président de l'EFAMA, vous êtes aussi président de BNP Asset Management. L'année 2015 pour vous se passe bien malgré ces soubresauts sur les marchés ?
Oui, l'activité pour BNP Paribas Investment Partners, c'est une bonne année. 2015 est une année de croissance de nos encours, de croissance d'encours, de rentabilité, avec notamment suite à la mise en place d'un renouvellement de notre gamme de produits phares à l'international, qui s'appelle Parvest, et bien un regain très fort d'intérêt de la part de notre clientèle, aussi bien institutionnelle qu'en provenance du monde banque privée ou de banque de détail, qui nous permet effectivement d'afficher une collecte positive en ces débuts d'année.
Bien, merci d'avoir fait le point avec nous, Christian Darrière.
Merci beaucoup.